Le plus récent budget du gouvernement québécois a fait du bruit dans le milieu du transport collectif. Et malgré une hausse des investissements à long terme, la Société de transport de Montréal, la STM, dénonce une diminution de 258 millions de dollars pour le maintien des infrastructures sur un horizon de 3 ans. Et j'en parle avec Eric Allen Caldwell, qui est président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, conseiller municipal du district Hochelaga dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Bonjour, Monsieur Caldwell.
Oui, bonjour.
Vous avez parlé d'une occasion ratée en évoquant le budget 2025-2026. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans les choix du gouvernement de la CAQ?
Bon, là, on parle de maintien d'actifs pour notre métro. Notre métro, là, on le sait, a été construit dans les années 60-70.
Il aura 60 ans l'année prochaine?
Oui, et tout à fait. Ben, et quand on fait l'âge moyen des composantes du métro, on est au-dessus de 40 ans, que ce soit les équipements mécaniques ou les systèmes. Et on sait qu'une partie de notre matériel roulant, une partie de nos trains, est ce qu'on appelle les MR 73. L'année 73, c'est pour l'année du contrat d'approvisionnement de ces trains-là. Dans les faits, c'est des trains qui ont commencé à arriver en 76. Donc, c'est des trains qui vont avoir 50 ans également. Mm-hmm. Alors, donc, on le sait que pour donner un deuxième cycle de vie au métro, pour bien l'entretenir, surtout à cause de son âge, faut savoir y investir en maintien d'actifs. Ce qui nous a déçus, c'est que dans le dernier budget de cette année, par rapport au budget précédent, il y a un ralentissement des sommes en maintien d'actifs pour le prochain cycle de 5 ans. Là. Il y a une légère accélération des sommes, mais c'est pour entre les années 2030 et 2035. Mais pour de 2025 à 2030, il y a une diminution des sommes, alors que c'est là qu'il faut investir avant qu'il soit trop tard, avant que les choses ne soient pas récupérables. Donc, et j'ai parlé d'occasion manquée aussi parce qu'il y avait dans tout discours du budget l'importance du maintien de nos actifs. C'était appliqué beaucoup pour le réseau scolaire, pour le réseau hospitaliers pour les routes, mais ça va aussi pour le réseau de transport en commun. Et l'autre occasion manquée, c'est il y avait tout un discours d'accélération des investissements au cours des 3 prochaines années pour faire face aux risques liés à la crise des tarifs avec les États-Unis pour stimuler la construction ici au Québec. Bien, là aussi, c'est une occasion manquée parce que quand on rénove puis on réhabilite le métro de Montréal, bien, c'est des investissements québécois dont profitent les Québécoises et 98% de nos fournisseurs sont québécois. Alors, ça aurait été de l'argent bien dépensé pour atteindre les deux objectifs du gouvernement, mm-hmm. c'est-à-dire résorber le maintien d'actifs et stimuler l'économie locale.
Alors, à quoi il faut s'attendre si rien n'est fait à court terme?
Bien, c'est la question, c'est la fiabilité, là. C'est-à-dire, on a déjà une augmentation du nombre de pannes dues à des incidents techniques. Il y a des pannes pour lesquelles les causes sont humaines dans le métro, mais il y en a d'autres que c'est des bris techniques. Alors, c'est certain là que plus on s'expose au risque de la défaillance de nos infrastructures, ben moins il y aura de fiabilité. Puis le métro, ça doit être fiable. Là. Pour ceux qui le prennent, là, quand le métro est en panne ou en retard, c'est très impactant
ça dérange
sur
tout
la
le monde.
Vie.
Ouais.
Puis moi-même, ça m'est arrivé dernièrement de me dire, en attendant dans le métro, ben mon Dieu, j'aurais dû prendre un autre moyen de transport, comme ça je serais pas en retard. Ça fait très, très mal au métro quand on a des interruptions de service. C'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Alors là, faut donner un coup de barre pour prendre soin de notre métro. Sans ça, on risque d'avoir un métro moins fiable. Puis mm-hmm. ailleurs dans le monde, nommément New York, quand que ça arrive, ben les conséquences sont affreuses.
Faudrait que les dirigeants, dirigeantes le prennent plus souvent pour comprendre que quand ça arrête, ça désorganise une journée.
Ben oui, et clairement, je les invite d'ailleurs à venir dans le métro.
Quand ils sont en campagne, ils vont le prendre, là, en campagne électorale.
Ouais. Mais vous savez, comparons-nous 2 secondes aux routes. Là. T'sais, aux routes, souvent, le gros avantage concurrentiel du métro, c'est de se soustraire aux aléas de la congestion et mm-hmm. du trafic. Là. Alors, si on perd cet avantage concurrentiel-là, c'est-à-dire sur la prévisibilité de notre temps de déplacement, parce que soustrait aux aléas de la circulation, ben, on perd notre avantage concurrentiel. Là. Puis c'est ce qu'on aime du métro. Là. Moi, c'est ce qui me permet de mieux planifier ma journée, parce que je sais à quelle heure je pars, puis à quelle heure j'arrive, alors que pour un trajet équivalent en auto, on n'a pas ça. Là. Fait que c'est le nerf de la guerre pour toutes les grandes villes. Là. Ce qui fait l'efficacité et la réputation du métro. Un, c'est le temps de déplacement, mais deux, aussi, sa fiabilité. Là.
Et M. Caldwell, est-ce que les citoyens et citoyennes peuvent s'attendre à plus de bris de service ou de fermeture de stations dans les prochaines années si il n'y a pas d'investissement important là?
Bien, c'est l'appel que j'ai fait au gouvernement, c'est-à-dire de revoir sa position pour améliorer l'investissement en maintien d'actifs dans le métro, là. Donc, soyons clairs, là. C'est une fatalité que si on n'investit pas nos infrastructures ne nous seront plus, vont être moins fiables. Alors oui, nous, notre demande était d'augmenter l'investissement dans le maintien d'actifs. Pour nous, le pire des scénarios, c'est que ça reste au niveau précédemment annoncé lors des derniers exercices budgétaires. Ben, on a eu un scénario encore pire, c'est-à-dire on a un ralentissement des investissements par rapport à ce qui a été annoncé ces dernières années. Alors, c'est d'aller dans le sens contraire de ce qu'il faut faire.
Et en termes d'accessibilité, il y a 30 stations du métro qui sont maintenant universellement accessibles, vous le confirmez?
Oui, tout à fait, depuis peu, avec l'inauguration de l'ascenseur à Atwater.
Et qu'en est-il de l'accessibilité, justement, dans ce contexte de manque de financement? Il y a un ralentissement aussi à prévoir, j'imagine.
Bien, d'un, il faut quand même se féliciter là, du chemin parcouru depuis une dizaine d'années à la STM. Là, il n'y avait pratiquement pas de station accessible. On en a bon an, mal an inauguré 2-3 par année depuis.
Il y en a combien en tout?
Des stations de métro, oui. 68.
68. Bon, il reste encore du travail.
Il reste encore du travail à faire. Mais donc, on partait de très loin, là. C'est un métro qui n'a pas été conçu là, pour faire des ascenseurs. Là. Fait que c'est un défi technique, là, architectural assez grand, là, mettre des ascenseurs.
On n'a pas pensé aux personnes en limitation physique quand on a conçu.
Non, en fait, non. Ben, dans la conception du métro, c'est parfois maintenant, aujourd'hui, quand on conçoit des édifices, on prévoit le futur en se disant « Ah, il y aura tel besoin qu'on va peut-être accommoder un jour », mais à l'époque, dans la conception du métro, non. Ce qui fait que souvent, quand on construit des ascenseurs, il faut faire de nouvelles excavations. Il faut carrément faire un nouveau trou de la surface au métro pour y faire passer un ascenseur parce qu'il n'y a pas d'espace dans la structure actuelle.
Mm-hmm. Encore plus compliqué, encore plus cher.
Oui, et donc là, je pense qu'il faut collectivement se féliciter du parcours accompli, là, où là, ville et gouvernement ont investi pour amener à 30 le niveau d'ascenseur. Mais là, on a atteint un certain plateau parce que les sommes requises pour des nouvelles mises en chantier ne sont plus là. On a deux autres chantiers qui continuent, là, à Édouard-Montpetit et pour l'accès à la ligne jaune à Berry-UQAM, là. Donc, il y aura deux nouvelles inaugurations, là, à venir, là. Mais après ça, on ne peut plus faire de mise en chantier parce que les crédits pour financer ces travaux-là ne sont pas faits. C'est souvent des travaux qui sont planifiés pour lesquels il y a eu de la conception, mais là, c'est l'argent pour la mise en œuvre qui n'est plus là. Et ça rajoute au défi qu'on a. On a celui du maintien d'actifs, la modernisation du métro, et on a le défi d'avoir des enveloppes pour les ascenseurs. C'est deux enveloppes séparées. Mm-hmm. Dans les deux cas, là, les crédits ne sont pas là.
Est-ce que vous avez des réponses? Pourquoi le gouvernement vous donne de l'argent entre 2030 et 2035, mais pas pour tout de suite, là?
On attend ces réponses-là à l'étude des crédits dans deux semaines.
OK, dans deux semaines. Bon, on va suivre le dossier. Éric Alain Caldwell, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal et conseiller municipal du district Hochelaga dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne chance, bonne journée.
Merci, au revoir.